Chers amis de Radio Grand Ciel, je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine. Nous allons découvrir ensemble Edith Stein, en religion sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Son frère, Siegfried, est commerçant en bois dans une scierie. Il épouse Augusta Stein en 1871 et s'installe en Haute-Silésie, où naissent leurs 6 premiers enfants, Paul, mort au camp de concentration de Theresienstadt, Zelma, morte jeune à 1 an, Else, Hedwig, Arno et Ernst. En 1882, la famille s'installe à Lublinitz, où Siegfried fonde sa première entreprise avec l'aide de sa belle famille. C'est une période difficile pendant laquelle l'aide familiale lui permet de ne pas sombrer dans la misère. C'est là que viennent au monde les derniers enfants du couple Stein, Elfriede, morte en camp de concentration, Rosa, morte avec Edith à Auschwitz, Richard, mort-né et Erna. Edith Stein naît le 12 octobre 1891 à Breslau, jour de Kippour, ce qui la rend particulièrement chère à sa mère, juive pratiquante. Son père meurt d'une insolation quand Edith n'a pas encore 3 ans. Sa mère, femme très religieuse, doit alors subvenir aux besoins de sa famille et diriger l'entreprise familiale. Cette lourde tâche demande beaucoup de rigueur et de travail, discipline qu'Augusta Stein essaie de transmettre à ses enfants ainsi que sa foi juive. Edith Stein raconte d'ailleurs que, comme elle est la dernière de sa famille, c'est à elle qu'il revient, d'après la tradition juive libérale, de poser les questions liturgiques lors des fêtes juives, questions qui donnent lieu à des explications plus complètes par le célébrant. Edith entame sa scolarité à l'école Victoria en 1896, année où, pour la première fois en Prusse, les filles sont autorisées à passer le baccalauréat. Elle se retrouve très vite dans la classe supérieure. Une camarade de classe dit d'elle, sa précocité n'avait rien de surprenant, elle y était poussée par ses aînés, mais l'irrésistible orgueil qu'elle développa et dont la tension pouvait aboutir à des larmes et à la colère quand elle n'obtenait pas ce qu'elle souhaitait ou n'était pas la première, la meilleure, était moins positif. C'était une excellente élève. À partir de 13 ans, elle commence pour Kippour à jeûner jusqu'au soir, suivant la tradition juive. Elle conserve cette pratique même lorsqu'elle quitte sa famille et ne prie plus. À partir de 1904, les filles sont admises au lycée. Toutefois, arrivée à l'adolescence, Edith Stein refuse de rentrer au lycée et demande à arrêter ses études à l'âge de 15 ans en 1906. Elle part 10 mois à Hambourg, aider sa sœur Else, qui vient d'avoir un enfant. C'est à cette époque qu'Edith Stein cesse de prier. En pleine conscience et dans un choix libre, « Je cessais de prier », dira-t-elle. En septembre 1907, elle revient à Breslau, retrouve un grand appétit de savoir et alors qu'elle a quitté le collège volontairement, se remet avec brio aux études. Elle rattrape pratiquement son retard et intègre le lycée en 1908. Pendant cette période, Edith lit et étudie beaucoup. Elle affirme plus tard que ses lectures littéraires de l'époque la nourrirent pour ma vie entière. C'est pendant cette période qu'elle commence aussi à découvrir la philosophie et notamment la lecture de Friedrich von Schiller, disciple d'Emmanuel Kant. Edith prend alors un engagement politique en devenant membre de la section locale de l'Association prussienne pour le vote des femmes. Elle soutient avec sa sœur Erna et ses amis l'aile la plus radicale du mouvement féministe autour d'Anita Augsburg, d'Hélène Stöcker et de Linda Gustava Eymans. Edith obtient son baccalauréat avec succès en 1911 et décide de poursuivre des études universitaires en philosophie. Edith est persuadée que, et je cite, « Nous sommes sur Terre pour être au service de l'humanité. Pour s'y employer du mieux possible, il faut faire ce à quoi l'on incline. » Elle entame alors de brillantes études à l'université de Breslau. Elle décide d'étudier de nombreuses matières, les langues indo-européennes, l'allemand ancien, l'histoire du drame allemand, l'histoire de la Prusse et de Frédéric le Grand, l'histoire de la constitution anglaise, la philosophie de la nature, l'introduction à la psychologie, l'initiation aux Grecs, enfin. Edith Stein étudie particulièrement l'histoire, se considérant comme passionnée aux événements politiques du présent considérés comme l'histoire en devenir. Elle tire de cette période de sa vie les nombreux exemples historiques qu'elle utilise par la suite dans ses conférences. Elle étudie aussi la psychologie, si au cours de ses études de psychologie qu'elle se déclare athée. Elle participe aussi à deux associations. La première est l'association Humboldt d'éducation populaire, qui donne gratuitement des cours de soutien scolaire à des ouvriers et des employés. Elle y donne des cours d'orthographe. La seconde est une association de femmes visant à l'égalité des sexes et organisant des petits débats. Lors de la Première Guerre mondiale, Edith Stein décide de retourner à Breslau. Dans l'immédiat, elle veut servir et aider de son mieux. Elle fréquente un cours d'infirmière. Pour elle, ce sont les temps difficiles. Elle écrit « Quand la guerre sera finie, si je vis encore, je pourrai à nouveau penser à mes occupations personnelles. » Elle retourne à Göttingen pour passer son examen d'état, passe les épreuves et début janvier, obtient le diplôme avec la mention « Très bien ». À la suite de son examen, elle postule à nouveau à la Croix-Rouge et est envoyée à l'hôpital militaire de Wischkirchen en Autriche. Elle soigne les malades du service des maladies infectieuses, travaille en salle opératoire, voit mourir des hommes dans la fleur de l'âge issus de toute l'Europe de l'Est. Cette expérience la marque profondément. C'est une sorte d'expérience pratique d'empathie. Comment communiquer avec des hommes dont on connaît peu la langue? Elle obtient la médaille de la bravoure pour son dévouement. Épuisée, elle est invitée à rentrer chez elle et n'est plus rappelée. Sa recherche philosophique porte essentiellement sur la personne humaine, les relations interpersonnelles, les communautés d'appartenance, État, peuple, groupe ethnique, religieux. Elle insiste sur le sens des valeurs, la liberté, le refus du totalitarisme. Elle continue d'être européenne, de refuser le triomphalisme prussien à propos de Sedan et écrit devant le carnage de la Première Guerre mondiale, je cite, « Deux choses seulement me maintiennent la curiosité en éveil. La curiosité de voir ce qui va sortir de l'Europe et l'espoir d'apporter ma contribution en philosophie. » Dans ses lettres des années 1930, elle parle des auteurs polonais, du français Romain Rolland, qu'elle apprécie, et refuse de voir la communauté humaine se déchirer à cause de nationalisme exacerbé. C'est sans doute l'origine commune de son féminisme comme de son pacifisme. Elle dit ainsi qu'elle a de chaudes discussions au sein de ce parti. C'est la première femme devenue docteur en philosophie en Allemagne et la première à avoir demandé officiellement que les femmes soient admises à présenter une habilitation au professorat. Face aux discriminations sur son habilitation, elle écrit au ministre de la Culture allemand, qui lui donne raison, affirmant la possibilité pour une femme d'être professeur d'université. Cependant, malgré toutes ses démarches, elle est refusée à Kiel, Hambourg et Göttingen. Elle s'oppose à l'idéologie du national-socialisme allemand ainsi qu'aux idéologies marxistes. Demain, nous aborderons sa rencontre avec le Christ. Bonne journée.